10-19h30, 21h, Time Sport, spécial Coupe du Monde 2022 au Qatar avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Bonsoir à tous et bienvenue sur l'antenne de Beurre FM en ce jeudi 1er décembre 2022 à la suite d'une émission assez spéciale avec Monsieur la Légende Enrico Marciès sur l'antenne de Beurre FM. Vous restez avec nous jusqu'à 21h, une émission spéciale Coupe du Monde 2022 au Qatar. On va voir quoi ce soir? Eh bien dans cette émission, on va parler bien sûr des Lions de l'Atlas. Et oui, la sélection marocaine, le Maroc y croit et il va en 8e de finale. Une émission assez spéciale avec toutes ces nations africaines, eh bien justement qui ont pris leur passe pour retrouver ces fameuses 8e de finale. Et on va parler largement, non pas de l'équipe de France, mais plutôt de la sélection marocaine et des hommes d'un certain Regragui. Les pépites du football avec notre consultant Abdel, ça c'est promis, avec un invité phare ce soir. On a Chief du Burel, du FC Burel. Eh oui, club mythique de Marseille. On va parler eh ben, là aussi de ce mondial, aussi au Qatar, et sans oublier la formation du football amateur. Vous restez avec nous au 01 53 48 3000. On marque d'une courte pause avant de revenir avec les maths de 20h ce soir et les compositions.
Time Sport revient dans un instant. 10-19h30, 21h, Time Sport, spécial Coupe du Monde 2022 au Qatar avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
De retour sur l'antenne de Beurre FM, on se jeudi soir, 19h42, votre radio préférée Beurre FM. On nous écoute du côté de Rouen, le 98.7. Un petit clin d'œil à Mohan que vous pouvez retrouver sur les émissions spéciales Coupe du Monde le week-end dans Food Sport spécial Qatar 2022, 18h à 20h, chaque dimanche avec toute son équipe. Et aussi du côté de Saint-Etienne et Stéphanois, le 94.3, sans oublier aussi ce soir le livre qu'on vous fait remporter aux éditions Solar, un magnifique guide de cette fameuse Coupe du Monde au Qatar. Voilà, pour tout savoir sur cette Coupe du Monde, les groupes, les joueurs, les entraîneurs et même les petites anecdotes concernant les supporters et les pays, les nations, et eh ben voilà, on vous le procure, rien de plus simple, vous composez le numéro du standard, le 01 53 48 3000, et on vous le fait remporter avec toute l'équipe de Time Sport. Allez, c'est parti avec les petites infos du jour.
Time Sport. Le JT.
Eh ben oui, à travers le monde, les Marocains frappent fort. Et eh ben c'est ça, les Marocains sont qualifiés. On aura le temps d'en parler dans cette émission. Ça, on vous le promet, chers auditrices et auditeurs de Beurre FM, pour en parler ce soir, on aura Abdel. Bonsoir Abdel.
Bonsoir Bilal, bonsoir à toutes et à tous. Très content d'être là pour parler justement de cette qualification du Maroc, qui est la deuxième africaine à se qualifier dans ce
plaisir.
Mondial au Qatar après le Sénégal. C'est mérité. Là, ouais, on aurait pu penser que c'était une surprise, c'est mérité, et on en reviendra plus en détail tout à l'heure.
Bien sûr, t'inquiète pas, le débat du jour, on le rappelle pour vous, chers auditeurs de Beurre FM, l'Afrique nous fait-elle honneur? Rafik sera avec moi, sans oublier Alexis. Bonsoir Rafik.
Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Un plaisir, comme tous les soirs, d'être parmi vous.
Eh ben nous aussi, Rafik. On va commencer avec les deux matchs de ce soir. Hein, faut le rappeler, hein, les matchs de ce soir. On a le Japon face à l'Espagne. Hein, Loja avec Juan Trossé qui nous écoute ce soir. Hein, il est sur le périphérique en ce moment, Juan Trossé. Allez, les compos avec toi,
alors,
Abdel.
On commence avec le Japon qui évoluera dans un 3-4-3 avec Gonda dans les buts. Les trois centraux, Itakura, Yoshida et Taniguchi, la ligne de 4 avec Ito, Morita, Tanaka et Nagatomo bien connus. Et devant la ligne de 3 avec Kamada, Maeda et la pépite Kubo, côté espagnol, du grand classique dans un 4-3-3 mis en place par Luis Enrique. Unai Simón dans les buts, Balde, latéral gauche, Torres, Rodri, Azpilicueta qui complète la défense. Busquets qui devait être mis au repos mais devant l'enjeu du match, ouais, devait être titulaire avec ses compères Pedri et Gavi. Et devant quand même du changement avec Olmo, Morata, un véritable attaquant enfin pour Luis Enrique, et Nico Williams, la pépite espagnole qui débutera dans le couloir droit.
Allez, l'autre match, parce qu'on parle du fameux groupe E, Japon-Espagne, que vient de donner Abdel les fameuses compositions, Costa Rica-Allemagne, aïe aïe aïe, attention pour les Allemands et sa fameuse Mannschaft, avec toi Rafik.
Donc Costa Rica dans les cages, Navas, une défense à 5, Fuller, Duarte, Watson, Vargas, Oviedo. Au milieu, Aguilar, Borges, Tejeda, l'ancien Toulousain, Campbell en soutien de Venegas. Côté Mannschaft, on a une formation qui va évoluer en 4-2-3-1 avec Neuer dans les buts, à droite Klostermann, Zuller, Rudiger en charnière, Rome à gauche. Devant la défense, la paire munichoise Goretzka, Kimmich, et en soutien de Füllkrug, on a de droite à gauche Gnabry, Musiala et Sané.
Ah ben là, ça promet du beau jeu. On espère en tout cas, Rafik. Ouais, pas droit à l'erreur pour les Allemands.
L'Allemagne, c'est gagner ou on rentre à la maison. Il y a pas d'autre solution en fait.
C'est ça. 19h46, hein, un peu moins de 15 minutes. Oui, allez, une petite modif. Allez, vas-y, donne-la pour les auditeurs de Beurre FM.
Défense à 4 avec Kimmich latéral droit et au milieu de terrain Gundogan et Goretzka. Donc au cas où peut-être que.
C'est les deux matchs de 20h. On verra. Abdel suivra de près la rencontre Japon-Espagne. On aussi en aura Rafik pour le Costa Rica-Allemagne.
Oui. Tout le monde peut sortir du groupe, tout le monde peut être éliminé et ça va être un match. Là, c'est un groupe super ouvert.
Super ouvert. Anthony à la réalisation. On va l'écouter rapidement, Anthony.
C'est le groupe de la mort.
Ouais.
Groupe
en quelque
de la
sorte.
Mort et celui qui arrive deuxième affrontera le Maroc. Tout à l'heure, on reviendra dessus.
Eh ben, on va revenir longuement sur nos frères, amis, voisins marocains et marocaines justement. On va parler de ces fameux Lions de l'Atlas qualifiés pour les huitièmes de finale, tout comme le Sénégal et Lions de la Teranga. Mais sans plus tarder, on va prendre le chemin justement de ces fameuses pépites au mondial.
Time Sport. La formation d'Abdel.
On t'écoute, Abdel.
Oui, encore une fois, on part du côté du Qatar avec un joueur qui démontre de très belles choses depuis le début du mondial, en la personne de Mohamed Kudus. Alors c'est un joueur qui a 22 ans, qui évolue du côté de l'Ajax Amsterdam et qui est international ghanéen. C'est un joueur qui peut évoluer à plusieurs postes dans le cœur du jeu, que ce soit numéro 10 en soutien de l'attaquant, mais son poste préférentiel, c'est vraiment numéro 8, un joueur box to box qui est vraiment impressionnant, gaucher. On sait que les gauchers ont une qualité supérieure techniquement. Un joueur vraiment explosif qui a de très gros appuis, un gros volume de jeu, ce qui lui permet de couvrir pas mal de zones dans le terrain, notamment offensivement. Et il est capable aussi de répéter les courses à haute intensité, ce qui permet à son équipe et à son coach de le garder sur le terrain pendant toute la durée d'un match. Malgré son jeune âge, 22 ans, on le rappelle, Mohamed Kudus, c'est un leader technique. Il fait le lien entre la défense et l'attaque, pardon. Et ce qui est important, c'est que il apporte vraiment satisfaction dans les moments clés. Ça veut dire que niveau statistique, il est capable de te mettre une passe décisive ou te mettre un but, comme en attestent les deux buts marqués lors du match précédent face à la Corée du Sud. Honnêtement, il est très très impressionnant. Et pour ceux qui le connaissent, en réalité, on va pas s'inventer de vie ou quoi, mais c'est un joueur qui démontre de belles choses depuis pas mal de temps maintenant. Cette année en Ligue des Champions, c'est un joueur qui est très très costaud. Il a d'énormes statistiques. Et il le confirme à cette Coupe du Monde au Qatar comme étant le symbole de la nouvelle génération des Black Stars. Et j'apprécie vraiment ce joueur parce que il est capable de faire du bien à un collectif. Il a pas la pression, justement la pression est positive avec lui. Si on doit parler des axes d'amélioration, bien évidemment, il joue dans un poste au milieu de terrain où faut qu'il y ait un petit peu l'aspect défensif qui entre en compte. Mais je pense que ça se travaille. Il fait tellement de bien offensivement qu'on peut lui omettre le fait de travailler défensivement. Mais c'est vraiment un joueur qui plaide et qui travaille pour le collectif. Et voilà, il est suivi par pas mal d'écuries avant de devenir aux Pays-Bas. Il était en au Danemark si je me trompe pas. Et il est suivi par de nombreux clubs européens. Et je pense que déjà ce qu'il avait démontré depuis le début de la saison, il y avait des clubs plus ou moins prestigieux qui étaient là. Et quand tu confirmes dans une Coupe du Monde et que t'es le leader de ton équipe, alors qu'il y a des André Ayew qui sont expérimentés autour de toi, tu ne peux qu'avoir le gratin. Donc je pense que il ne restera pas très très longtemps du côté de l'Ajax. Et vraiment un super joueur, on le rappelle, Mohamed Kudus, qui demain sera titulaire face à l'Uruguay pour tenter d'envoyer son équipe des Black Stars en huitième de finale et surtout faire la revanche qu'on n'oublie pas il y a 12 ans sur cette main de Luis Suarez.
Et ouais, on l'oublie pas. Ça fait du mal aussi à Rafik, hein.
Ah, bah,
ouais, on l'oublie pas, ouais, à tout le monde, hein, à tout le continent. Il a pas tort. Ouais, c'est vrai.
Très bien, et c'est bien que Abdel mette.
Comme à son habitude, toujours mettre en lumière, quoi.
On va le mettre en lumière. Cette pépite. On a eu l'occasion avant la Coupe du Monde d'avoir son agent Jennifer au téléphone.
C'est vrai.
Un petit coucou.
Andelevic. Très sympa.
et voilà, et on avait dit hein, dans, lors de cet échange que le son rêve c'est d'évoluer en première ligue à Mohamed et là avec ce qu'il est en train de montrer, il pourra justement avoir on va dire des clubs qui sont un peu plus huppés et moi je mets une pièce voilà, je mets une pièce sur Arsenal qui cible les joueurs à fort potentiel.
Ce genre de profil.
Voilà, et je pense qu'il peut apporter énormément au milieu.
Alors, avant de marquer d'une courte pause, est-ce qu'on peut prendre justement Zaina qui nous appelle depuis l'agglomération toulousaine. Bonsoir Zaina.
Bonsoir.
Comment allez-vous ?
Bonsoir. Ça va super, merci.
Ah ben, bonsoir Zaina. Ah ben justement, vous nous appelez pour passer une dédicace et aussi remporter le guide sur la Coupe du Monde.
Ben oui, ben mon chéri qui certainement vous écoute.
Ouais.
Qui est taxi, j'embrasse très fort, il adore votre émission, et voilà, c'est la première fois que j'appelle, je suis ravie de vous avoir.
Ah ben, Zaina, vraiment, c'est très sympa, mais il faudra qu'il appelle aussi le chéri, vraiment, il peut
ben
nous
oui,
appeler, réagir avec nous.
Oui, complètement, oui.
Qu'est-ce qu'on va faire? Ben non, il faudrait, avec Rafik, avec toute l'équipe, le réalisateur Anthony, et sans oublier Abdel. Anthony, on va prendre l'adresse, tranquillement, de Zaina, et on va lui faire parvenir rapidement ce magnifique ouvrage aux éditions
merci
Solar, c'est
beaucoup.
Le guide de toute la Coupe du Monde. Mais merci à vous pour votre écoute à
oui,
BFM.
Merci
à vous. Une très bonne soirée Zaina, vous faites comme Zaina, vous nous appelez en composant le numéro du standard le 01 53 48 3000. On va marquer d'une courte pause avant de revenir avec les Lions de l'Atlas et oui, cette sélection marocaine de Regragui.
Time Sport revient dans un instant.
10-19h30, 21h, Time Sport, spécial Coupe du Monde 2022 au Qatar avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Et de retour sur l'antenne de Beurre FM, 19h55 minutes. N'oubliez pas, on aura Shérif dans cette émission du FC Burel, dont l'agglomération de Marseille, l'agglomération marseillaise plutôt. Avec nous ce soir pour m'accompagner, les consultants, c'est Abdel, Alexis, on l'attend, un petit peu de retard sur le périphérique parisien, sans oublier Rafik. Je me retourne vers Rafik parce que c'est vrai, Rafik, on est assez heureux. Aujourd'hui, c'était Canada-Maroc un peu. On va faire un large résumé concernant cette fameuse rencontre. Les Marocains, les hommes d'un certain sélectionneur qui s'appelle Monsieur Regragui, voilà, on l'a remporté 2-1 face aux Canadiens dans cette troisième journée de ce fameux groupe F. Rafik, avec toi, ça fait plaisir en tout cas. Bravo
plaisir,
les Marocains.
Bravo, félicitations à tous les Marocains, tous les Marocaines qui nous écoutent ce soir.
Vous pouvez nous appeler les Marocaines et les Marocains. Il n'y a pas de problème.
Jamais, hein. On a une qualification historique, la deuxième du pays en Coupe du Monde. Donc la dernière qualification en huitième de finale, c'était en 86.
36 ans.
En 86. Et ironie du sort, ce soir, on peut, si l'Allemagne se qualifie, ils pourront se retrouver en huitième de finale comme en 86. Donc voilà, c'est aussi il faut aussi savoir rendre hommage à une personne qui a quand même posé des jalons pour cette sélection, Vaïd. Donc il a posé les jalons, il a qualifié la.
Faut
la
pas
sélection.
L'oublier. Je le disais à Boula la dernière fois.
Non, mais voilà, il a fait le travail, donc il faut rendre à César ce qui appartient à Vaïd. Hein. Et au niveau de comment ça s'appelle de la sélection, c'est aussi un pari gagnant de la fédération qui a pris entre guillemets le risque de changer de sélectionneur juste avant la compétition, avec le retour en sélection des fers de lance et des stars entre guillemets de la sélection, avec un Ziyech qui ouvre le score ce soir avec un petit piqué touché,
c'était pas mal
lieu,
hein,
la
magnifique
gauche, Amsterdam qui a fait le travail,
c'est vrai.
Et voilà, après il y a un gros travail
de management aussi, c'était pas mal.
De Regragui, il faut souligner son management qui est juste performant et c'est un sans faute hein, jusqu'à présent hein, tous les choix qu'il a fait sont payants, même si sur la fin ça a été un peu tendu. On a senti que l'enjeu était quand même assez important et qu'on dirait qu'on avait l'impression qu'ils se battaient contre le temps, qu'ils étaient un peu, peut-être submergés par l'enjeu, mais ils ont pu compter sur le fort appui du public hein, qui est venu en nombre et tous les Marocains et les Marocaines qui ont fait le déplacement au Qatar, qui ont su galvaniser les troupes et permettre à la sélection marocaine d'accrocher et de valider ce ticket en huitième. Encore une fois, félicitations au Maroc.
Eh oui, les Marocains avec toi, Abdel, on en parle ce soir, hein.
J'aimerais bien embrayer aussi sur Walid Regragui qui est arrivé tardivement dans cette sélection. Je pense que c'était peut-être pas la meilleure intronisation possible. aujourd'hui, quand tu arrives dans ce match face au Canada, tu as la possibilité de marquer un vrai premier tournant dans ton épopée avec la sélection marocaine. Donc on l'a vu clairement, il est au-dessus des joueurs, là où auparavant dans certaines sélections on voyait certains joueurs qui prenaient l'ascendant sur le coach. C'est quelqu'un qui a du caractère, qui a vraiment de la personnalité pour faire que ces joueurs soient 2000%. On le voyait, il y a une image qui est typiquement qui représente ça, c'est lors du premier match quand Amrabat sort du vestiaire en retard à la mi-temps et qui lui met une petite tape pour lui dire c'est la Coupe du Monde, réveille-toi. Et franchement, félicitations à lui parce que c'est pas un contexte facile. Encore une fois, ce qui est à mettre en avant et à souligner, c'est le fait que ce soit un sélectionneur local. Pour moi, tu peux être un très très bon coach entre guillemets étranger, mais je pense que quand tu as des valeurs qui se sont transmises depuis le plus jeune âge, par ton père ou par ta mère, au final t'arrives mieux à les retranscrire à tes joueurs parce que il y a ce lien si particulier d'appartenance au pays, que ce soit, alors que c'est pas forcément quelqu'un qui est né là-bas, parce que je voyais Rafik un petit peu ne pas être d'accord avec ce mot local, je sais. Mais franchement, voilà, c'est à mettre en avant. En plus de ça, c'est la première équipe africaine qui finit premier d'un groupe avec 7 points dans l'histoire. Et franchement, il y a des joueurs de qualité. Pour revenir sur Hakim Ziyech, on l'a vu un petit peu poussif lors du premier match, mais montrait beaucoup d'envie, notamment dans les efforts défensifs. Il a mis le lead offensif contre la Belgique. Il a vraiment été un des éléments clés. Et là, que dire de se mettre en confiance pour le Maroc en allant vers la qualification. Et un petit mot pour En-Nesyri. On cherchait un neuf, et au final, il arrive à planter. Et si il est en forme, et ben ça peut être super intéressant parce que c'est ce qui manque au Maroc, d'avoir un neuf régulier en sélection.
Alors, on passe à ton Rafik rapidement avant d'accueillir Nabil, un auditeur. Hein.
Au niveau d'En-Nesyri, ce que j'ai apprécié ce soir, en fin de journée, c'était son gros pressing et infatigable, le mec. Du début jusqu'à la fin, et ben il presse comme c'est pas permis. Après, moi, là où j'ai tiqué entre guillemets sur le côté local. Tu l'as bien compris, c'est le côté un peu binational avec les homologues Belmadi et Cissé avec le Sénégal. C'est une recette qui fonctionne. Moi, ce que j'aimerais, c'est vraiment qu'on ait des vrais entre guillemets locaux qui viennent emmener la nation, comme Badouzaki avec le Maroc à l'époque. Voilà quoi. Donc on a fait une part du chemin. Je pense qu'il faut aller encore.
Allez, il faut concrétiser encore une fois. Nabil qui nous appelle depuis la région parisienne. Bonsoir Nabil, qui a composé le 01 53 48 3000. Bravo aux Marocains, Nabil. Hein.
Oui, bonsoir messieurs. Bonsoir aux Marocains. Bonsoir. Et plaisir au Maghreb.
C'est ça. Ouais, pas que, tout le continent africain aussi, Nabil.
C'est toute l'Afrique qui gagne.
Oh, tout le continent africain, mais surtout le Maghreb.
Ouais. United. Ah, Maghreb United. Ah oui, vous aimez. Oui, vous avez raison. Maghreb United, si vous voulez, il n'y a pas trop.
ça me rappelle une chanson, hein, Maghreb United.
Ouais.
Voilà, c'est ouais. Ça. Mais effectivement, on est super heureux pour nos frères marocains, même si je suis d'origine algérienne.
Ouais.
Je suis avec eux de tout cœur. Ils ont réussi quand même à se qualifier premier de leur poule avec 7 points, devant quand même la Belgique et la Croatie. C'est le vice-champion du monde, la Croatie, quand même. Hein.
Ouais, c'est vrai. Le
troisième de l'ancienne Coupe du Monde.
Ils avaient une poule compliquée, à part le Canada. Sinon, Croatie et Belgique.
Ils ont souffert. Hein.
Aussi.
Ils ont eu des petits temps de latence quand même, mais bon, ils ont su tenir.
Non, je suis pas trop d'accord.
Sur la fin, c'est tout.
Je suis pas d'accord avec Abdel.
Non, ils ont géré. C'est franchement, là, c'est une nation qui arrive à maturité. À la dernière Coupe du Monde, ils ont fait se qualifier également. Ils avaient bien joué. C'était un football flamboyant. Sauf qu'ils n'avaient pas réussi à se qualifier. Cette fois, c'est la bonne. Et honnêtement, ils ont du banc, ils ont un jeune entraîneur qui a tout gagné en Afrique, qui connaît bien l'Afrique, et là qui arrive en Coupe du Monde. Et franchement, pour être noviste et avoir de tels résultats, c'est vraiment surprenant. Et franchement, bravo.
Et marchons les pas d'un certain Jamel Belmadi peut-être, Walid Regragui. Oui. Vous en pensez quoi, Nabil?
Non, pas du tout. Jamel Belmadi, pas du tout.
Pas du tout.
En Coupe du Monde. Non, il ne nous a pas ramené en Coupe du Monde.
Ouais, il n'a pas ramené en Coupe du Monde.
Il a ramené le Maroc en Coupe du Monde.
C'est Vaïd qui l'a emmené. Coach Vaïd aussi était là, non? Alors,
il a transformé l'essai, comme on dit. Il a transformé l'essai.
Ouais, un peu comme avec Guéret et Deschamps à Marseille.
C'est ça. Non, mais n'empêche, vous voyez, à la fin du match, il est porté par ses joueurs. Il est félicité, tout le monde le félicite.
Bien sûr.
Tout le monde est heureux. Je vois les images, ça soit
tous
en Belgique, à Bruxelles, sur les Champs-Élysées.
Ça fait plaisir.
Voilà, cette qualification. Alors qu'ils sont qu'en huitième de finale, hein. Mais voilà, ils sont
c'est bien, huitième de finale quand même, le mondial.
Quand tu vois le tirage sortir de huitième de finale, c'est déjà une très belle performance. De surcroît, en finissant leader, c'est costaud, non, très costaud.
Surcroît, leader, attendez, avec un but encaissé en trois matchs, et c'est un but contre leur camp.
Oui,
oui,
parce que ils sont costauds,
défensivement. Et oui. Sachant, j'écoutais, je regardais le match sur beIN Sport Arabe.
Ouais.
Walid Greghaghi, dont le sélectionneur du Maroc, disait qu'il y a trois joueurs blessés. Il y a trois joueurs qui ont joué blessés. Hakimi, Masraoui,
ouais,
et Romain Seyss, le capitaine. Les trois joueurs sont blessés. D'accord? Et
il a
précisé une chose qui est très très importante.
Alors, c'est quoi?
On joue tous les quatre jours. Donc il est obligé de faire des changements.
Mais bon, après, c'est.
De faire des changements, comme Didier
toujours été comme ça.
Oui, tous
bien
les
sûr.
Quatre jours.
Eh oui,
c'est fatigant,
surtout les matchs de poule.
Eh oui, ouais. Donc franchement, moi je pense qu'il a bien géré. Maintenant, on va voir ce soir contre qui ils vont jouer.
Voilà.
J'espère pas contre l'Espagne.
C'est ça.
Et voilà, une autre nation. Mais je pense que cette équipe du Maroc va aller loin. Honnêtement, quand je
vois. On le pense aussi, cette sélection marocaine, avec les hommes de Walid Regragui, faut le dire.
Petit point historique, 86, il termine aussi premier devant l'Angleterre.
Aussi. Voilà. C'est vrai. Ouais, c'est bien de le rappeler.
Oui, mais 7 points, c'est énorme. Avec un but encaissé. Contre les vice-champions qui est la Croatie.
Une prestation de patron. Une prestation de patron.
Voilà, on est d'accord.
On est d'accord, Nabil. Ah ben Nabil.
On est d'accord.
On est d'accord. Bravo aux Marocains.
Ah mais je suis déçu pour l'Algérie.
Eh oui, mais l'Algérie, mais on parle du Maroc. Là, l'Algérie, il faut un peu les oublier. Là, c'est le Maroc. Eh oui, malheureusement. Mais oui, mais bien sûr, mais on est tous frères. Mais gars, vous, on est même frères avec les Inuits aussi, au pôle Nord. Il n'y a pas de problème, ça. On est tous humains, c'est ça.
Mais
non, mais.
Un message aussi au passage. J'espère que tout le Maghreb sera uni.
Allez.
Avec le Maroc.
Bien sûr. Mais avec toutes les nations africaines. Et aussi. On espère le Ghana et aussi le Sénégal. Bien sûr.
Avec le Sénégal, avec le Ghana.
Tous avec le Maroc, le Sénégal et les autres nations. Un grand merci, Nabil. Vous restez avec nous, Nabil. On va vous faire patienter, Nabil, c'est promis. Et on va essayer de prendre son adresse pour lui envoyer un magnifique ouvrage aussi, le guide, de cette fameuse Coupe du Monde au Qatar. Allez, réaction avec toi, Abdel, avant de retrouver l'invité de ce soir.
Ouais, il y a une équipe qui est super intéressante du côté du Maroc. En tout cas, une grosse colonne vertébrale amenée par Yacine Bounou dans un premier temps, mais surtout amené par le capitaine qui est Romain Saïs, qui est un joueur pour moi sous-coté, qui a eu une carrière et qui aurait pu en avoir une meilleure en côtoyant de grands clubs, étant accompagné par Naïef Aguerd. Cette défense me fait penser vraiment au feu et à l'eau. Un joueur qui est capable d'être un petit peu agité, d'aller au contact, pendant que l'autre qui est capitaine essaye de calmer le jeu. Et c'est vraiment super super intéressant. En plus de ça, là où à l'époque on pouvait former des défenseurs, même s'ils ont eu Naïbet, même s'ils ont eu Benatia, des joueurs forcément qui étaient beaucoup dans le combat, aujourd'hui ils sont capables d'être les premiers relanceurs de cette équipe. Et forcément, quand il n'y a pas la solution, on peut se reposer sur eux pour jouer un peu plus long, trouver des angles de passe. Mais là, vraiment, pour moi, l'équilibre qui est le joueur de ce Maroc là c'est Amrabat qui évolue à la Fiorentina. Amrabat qui est pas forcément le joueur le plus élégant à avoir joué, outre son volume de jeu où il est là, il couvre énormément de terrain et les montées de ses coéquipiers que sont Masraoui et Hakimi. Il a surtout une énorme sérénité. Il apporte vraiment cette sagesse peut-être à son équipe. Et franchement, on le faisait passer peut-être pour un joueur qui ne sait pas jouer au ballon.
Oui.
On demande à un milieu de terrain d'être propre techniquement et de jouer le plus simple possible et de récupérer des ballons. C'est les cases qu'il arrive à remplir. Et comme tout à l'heure, on parlait d'un Mohamed Kudus, lui a tout pour impressionner et intéresser la plupart et la majorité des grands clubs européens. Aujourd'hui, il s'est super bien géré dans le fait de s'il prenait un carton jaune, il aurait pu être suspendu. Au final, il a géré ses émotions. C'est super important d'avoir un cadre comme ça qui fait le lien entre la défense et l'attaque. Et encore une fois, pour moi, c'est vraiment le pion essentiel de cette équipe et de Walid Regragui.
Vous restez avec nous, chers auditrices et auditeurs de Beurre FM. Allez, on va accueillir cette fois-ci notre invité de ce soir.
Time Sport.
The Special One. The Special
One. Et l'invité de ce soir, qui n'est autre que Chérif, justement, coach U16 au FC Burel, du côté de Marseille. Il est avec nous ce soir, mais justement pour répondre aux questions de notre fameux consultant Rafik.
Time Sport. La chronique à la source.
Et on t'écoute, Rafik.
Oui. Rebonsoir à toutes et à tous. Comme toutes les semaines, on essaye de mettre en avant le foot amateur sur Beurre FM. Et ce soir, on prend la A7 direction Marseille. Et,
la route du soleil.
On accueille l'autoroute du soleil.
La route, c'est vrai. Et désolé, en ce moment, je suis à pied, moi. Voilà. C'est pour ça.
et on accueille Chérif ce soir. Bonsoir Chérif.
Bonsoir Chérif.
Bonsoir
Chérif.
Bonsoir à tous.
Eh ben voilà, l'accent est chantant. Ouais, bien sûr Abdel, c'est ça. Ça fait plaisir aussi. Anthony, notre Niçois. On va écouter Chérif et aussi notre consultant. Hein. Ouais, on t'écoute.
Sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet. Chérif, est-ce que tu peux te représenter pour nos auditrices et nos auditeurs et représenter un peu ton parcours qui a fait qu'aujourd'hui, tu es entraîneur U16 du Burel FC.
Oui, bien sûr. Alors du coup, moi, c'est Chérif, j'ai 30 ans. J'entraîne au sein du Burel depuis maintenant 6 ans. Donc j'ai joué au foot pendant très longtemps. Jusqu'à aujourd'hui, je joue. Et donc du coup, je voulais rendre un peu ce que m'a donné ce beau sport qui est le football et les valeurs qu'il transmet. J'ai voulu transmettre à mon tour. Et ça fait maintenant, comme je vous ai dit, 6 ans que je fais ça et que je me régale chaque jour sur le terrain.
Justement, en termes de valeurs, quelles sont les valeurs que tu souhaites transmettre à tes joueurs?
En termes de valeurs, comme je vous ai dit, franchement, dans le football, c'est vraiment un sport très très riche parce qu'on partage vraiment des valeurs qui se retrouvent dans notre société, qui se retrouvent dans la vie. Nous, au Burel, c'est surtout respect, tolérance, partage, solidarité et bien d'autres encore. Et comme je vous ai dit, des valeurs qu'on retrouve dans la vie, on essaye d'être le meilleur possible, de gagner des matchs, mais il n'y a pas que ça dans la vie, comme dans le foot. On essaye d'apprendre des défaites, d'échanger avec les autres, d'avancer ensemble, et voilà.
Très bien. Et au niveau des difficultés que tu rencontres au jour le jour et au sein de ta fonction de coach, quelles sont-elles et comment tu arrives à les surmonter?
En termes de difficultés, c'est assez large. On peut avoir des petits qui n'ont pas les moyens de se payer une licence, des petits qui n'ont pas les moyens de se payer des protèges tibia ou crampons de foot, d'autres qui sont punis, d'autres petits qui ont des problèmes à la maison, de divorce, tout ça. C'est pour ça que nous, on est des éducateurs et qu'on participe du coup à leur éducation en accord avec leurs parents, bien sûr. Mais c'est assez large, les difficultés qu'on peut rencontrer. Et du coup, on est beaucoup dans la communication, dans l'échange et dans l'aide et l'entraide. On fait ce qu'on peut, entre guillemets, et des fois, on fait même plus pour aider les enfants. Comme on a été aidé, comme je vous ai dit, moi, on m'a aidé, ça m'a aidé à me construire. Aujourd'hui, je suis infirmier et le foot, pas mal de valeurs que je prône dans mon métier, de ma personne, sont grâce au fait que j'ai joué au foot et que j'ai été formé au football.
Très bien, Chérif. Et là, tu as souligné un mot qui était important dans ta réponse, c'est éducateur. Malheureusement, l'un des mots du football, c'est des personnes qui occupent cette fonction d'éducateur, mais qui la remplace par le coach et l'aspect, on va dire, compétitif qui prime sur l'aspect éducatif. Toi, est-ce que tu utilises le foot et le sport comme un canal de transmission éducative ou tu as quand même cette fibre compétitive que tu souhaites transmettre à tes joueurs?
En fait, pour moi, elles sont indissociables de par ma motivation, bien sûr, à performer, de la performance, mais le social et le côté éducatif passent avant, parce qu'on peut pas avoir cette compétition, cette performance, si justement on prend pas en compte les personnes. On travaille avec des personnes, des petits tous les jours, donc il faut prendre en compte leurs personnes et leur environnement. On peut pas prendre en compte uniquement le fait de gagner, et surtout que, comme on le dit souvent en tant que coach,
et même éducateur, si on recherche que la victoire, au final, quand on perd, on n'a plus rien. Il nous reste rien. On veut que la victoire. Si on n'a pas la victoire, ben en fait, on a tout perdu. Mais dans la victoire, si on recherche uniquement la victoire, c'est très pauvre parce que du coup, on n'apprend pas et la richesse des fois des défaites, on apprend beaucoup plus qu'une victoire où on va être très content, bien sûr, mais on apprend. L'essentiel, c'est d'apprendre, d'avancer et, comme je vous ai dit, d'avoir un petit parcours pour les jeunes et qu'ils soient formés pour tout ce qui leur arrive plus tard dans la vie ou actuellement, qu'ils leur servent et qu'ils soient prêts.
Sherif, on est en live hein, jusqu'à 21h, vous le savez. On a reçu avant nous Enrico Marcias dans l'émission d'Adil Farkan, hein, justement sur l'antenne de Beurre FM. Et Adil, les origines marocaines, Adil. Hein. Ouais, mais oui, il a écouté, je sais bien, il a écouté. Et Adil est d'origine marocaine. Bravo le Maroc. Bon, on en parlait,
bravo,
Adil.
Maroc.
Bravo, ouais.
Bravo,
le Maroc. Ouais. Mais bien sûr.
Mais attendez, moi je vais dire une chose.
Le Maroc, bravo.
Ouais. Ils étaient jusqu'en 8e.
Et on soutient les Marocains. Comme on l'a, il y a un auditeur, il a dit c'est Maghreb United.
On est Afrique
United même.
Frères, ouais. À se soutenir mutuellement.
Mais bien sûr, Adil. Voilà. Et il faut.
Je vous le dis quoi qu'il arrive.
Faut.
On est condamnés à se soutenir.
Mais bien sûr, Adil. Et tu fais bien d'en parler, justement, Adil. Bravo aux Marocains.
Solide.
Ouais.
Elle tient la route. Belle dextérité technique.
Impactante, cette équipe.
Incroyable. J'ai vu le match exceptionnel.
On aimerait qu'ils aillent le plus loin possible, les Marocains, avec, on espère, le Ghana et aussi les Sénégalais.
Pourquoi pas aussi les
Camerounais.
Aussi les Sénégalais. Respect,
on va voir.
Les Sénégalais.
Ouais, les Sénégalais. Sans Sadio Mané, ça fait le travail.
Ils ont fait un cheminement d'un parcours exceptionnel durant cette Coupe du Monde.
C'est incroyable.
Voilà, je voulais juste, et je te remercie,
Bilal Lenman. Mais
normal. Je voulais venir,
C'est rare qu'Adil intervient chez nous.
C'est rare.
Vraiment, c'est rare.
Tu le sais.
Eh oui, c'est un vrai connaisseur de football, Adil Farkan, amoureux aussi de cette sélection marocaine et du football, du beau jeu africain. On a Sherif, on va revenir avec Sherif après la pause. Un grand merci à Adil. On le rappelle, hein, Sherif, coach des U16 du côté du Burel. Eh oui, c'est un club fondé en 1948, hein, situé dans le 13e arrondissement de Marseille. Eh oui, c'est un club formateur de grands joueurs de football. Ils y sont passés. Allez, vous restez avec nous, chers auditeurs, et on revient rapidement avec lui.
Time Sport revient dans un instant. 10-19h30, 21h. Time Sport, spécial Coupe du Monde 2022 au Qatar avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
De retour sur l'antenne de Beurre FM, votre radio préférée en ce jeudi 1er décembre. Eh oui, un joyeux anniversaire à qui? Eh ben, on a Karima, on a Adil aussi. Voilà, des auditrices, des auditeurs de Beurre FM à qui nous passons le bonsoir et la petite dédicace. Allez, Alexis. Ah ben, voilà. Voilà, il y a des buts. Eh oui. Il est assez chaud, le réalisateur Anthony, ce soir. Hein. Il y a eu des buts, Abdel, hein, sur les deux matchs.
Exactement. Pour l'instant, pas de surprise. L'Allemagne qui mène 1-0 face au Costa Rica grâce à un but de Serge Gnabry. Dans l'autre temps, l'Espagne mène 1-0 face au Japon grâce à un but d'Alvaro Morata qui inscrit son deuxième but dans la compétition. Ça doit payer de jouer avec un attaquant pour Luis Enrique qui n'était pas forcément fan.
C'est vrai. Merci pour toutes ces infos. On va revenir à notre invité de ce soir.
Time Sport, la chronique à la source.
Et on le rappelle toujours avec Sherif, notre justement invité, coach chez les U16 du FC Burel du côté de Marseille. Avec toi, Rafik.
Rebonsoir, Sherif. Encore quelques petites questions pour toi. La première, on sait que la région marseillaise et le bassin marseillais en termes de population, on a pas mal de talents qui sortent de la région, mais bizarrement, l'ensemble de ces jeunes arrivent à éclore leurs talents loin de la cité phocéenne. De ton point de vue d'éducateur et d'amateur du ballon rond et d'amoureux de l'OM aussi, comment tu expliques le fait que très peu de joueurs marseillais arrivent à percer au sein de l'OM?
Y a plusieurs points. Je pense que déjà, l'Olympique de Marseille base son recrutement surtout depuis ces derniers temps à la région parisienne. Et donc, il laisse passer certaines pistes, certains des meilleurs joueurs et des meilleurs jeunes de la région finissent par aller à Nice, Monaco, Montpellier, et j'en passe. Et surtout, ils montrent de l'intérêt, ces clubs-là. Ils viennent les voir et forcément, quand on explique à des petits qu'on les suit depuis qu'ils ont 10, 11 ans et qu'on les a vus évoluer, qu'on leur propose quelque chose de sérieux et concret, forcément, ils écoutent, malgré que ces petits-là rêvent de l'Olympique de Marseille. Et puis aussi, que ces clubs-là, au niveau pro et au niveau de la passerelle vers ces pros, du centre de formation vers les pros, ils voient des joueurs qui jouent avec l'équipe première, chose qu'on ne voit que très rarement à l'Olympique de Marseille, et la qualité de la formation aussi, où ces clubs-là bossent à fond. Et comme je vous ai dit, en équipe première, on peut voir le résultat, chose qu'on ne voit pas à l'Olympique de Marseille, malheureusement.
Très bien. Et est-ce que tu penses que le projet, un peu la next generation de l'OM, ça peut retourner un peu la situation, ou c'est quelque chose, c'est un peu un serpent de mer et ça, rien de concret va sortir de ce projet?
Nous, au sein du Burel, on était le premier partenaire de ce Next OM Generation. On avait à cœur de faire ce partenariat. On pensait que c'était justement pour repérer les petits et travailler mieux pour que ces petits-là peuvent réaliser leurs rêves et être meilleurs et finir à l'Olympique de Marseille. Sauf que nous, on est ressortis rapidement de ce partenariat parce que malheureusement, des promesses n'étaient pas tenues par les dirigeants marseillais. Et en fait, ils voyaient trop leur intérêt à court terme, alors que ce genre de projet, je pense qu'il est très intéressant et qu'on peut voir autrement, aurait été très, très propice, mais sur le moyen et long terme.
Vont espérer le football, Chérif, hein. On sent le gars qui a grandi du côté à côté de Chute-la-Vie, hein, après Château-Gombert dans le 13e arrondissement de Marseille, un fief du football marseillais, vraiment, qu'on y connaît si bien, qu'on rencontrait en Coupe Marie-Crémieux aussi, Coupe de Provence, hein, parce qu'on était fin connaisseurs. Moi aussi, j'avais joué contre le FC Burel, vraiment assez époustouflant les joueurs qui sortaient de ce club-là. Mais c'est vrai que on a toujours eu cette tendance à vouloir, on va dire, passer nos classes du côté du club amateur et après franchir le pas à l'Olympique de Marseille. Oui. Mais jamais on a eu l'ascenseur à double sens, quoi. C'est un peu dommage que les joueurs du sud de la France, sur cette fameuse Ligue méditerranéenne, hein, quand je dis Ligue méditerranéenne, on a aussi le bassin corse, hein, qui rassemble à cette Ligue méditerranéenne. Faut pas l'oublier. C'est vrai que des fois, on manque un peu d'efficacité. On a l'impression, comparé au gros vivier, l'un des plus gros viviers mondiaux, qui est l'île de France, et ce vivier qui est la région méditerranée, quoi. Vous en pensez quoi?
Ben moi je suis d'accord, il y a un gros vivier aussi, et comme on l'a dit, un peu sous-évalués par le plus gros club de la région. Ça, c'est dommage quand même.
Ouais, c'est vraiment dommage. On va poursuivre, Chérif, coach des U16 du FC Burel, avec Abdel, notre consultant.
Chérif, bonsoir. Justement, une petite question un petit peu plus large. On sait que dans votre secteur, vous êtes déjà calibré pour tout ce qui est en termes de formation et aussi en termes de projection. Mais j'aimerais savoir si on connaît d'autres bassins, comme le bassin ici en Île-de-France ou même du côté de la Bretagne. Est-ce que ça vous arrive un petit peu d'aller chercher des connaissances un petit peu à gauche et à droite pour parfaire et mettre de la variété dans tout ce qui est discours, voire même séance?
Ah oui, bien sûr, on est ouvert et on prend justement de tout ce qui est formation, même à l'extérieur de la France. On essaye pas mal de choses et on n'est pas fermé aux méthodologies et aux pédagogies. Et on peut travailler des fois avec du Corver comme d'autres moyens qui viennent des Pays-Bas et qui permettent aussi, parce que malheureusement, c'est des problématiques actuelles. Les petits jouent de moins en moins sur les terrains de quartier. Et on sait maintenant, avec les analyses, que c'est ça qui fait les meilleurs joueurs de football. Les 7 contre 7, les 5 contre 5 qu'on jouait quand on était petit sur les terrains. Et du coup, il y a des méthodes qui maintenant nous aident à recréer ces parcours-là et voir d'autres. On essaye vraiment de travailler différemment. On est à l'écoute de tout ce qui se fait, de tous les discours. On est ouvert et c'est ce qui nous rend, je pense, meilleur. Si on se remet pas en question, qu'on travaille que d'une façon, on est fermé et on avance pas.
Intéressant, Chérif.
Et Chérif, si on peut aller un petit peu plus dans le détail, quel est le modèle qui vous a le plus inspiré, même si vous avez dit que vous prenez un petit peu de tout? Quel est le modèle qui vous a fait vous resituer sur une nouvelle méthode de travail, que ce soit en France ou à l'étranger, sur ce que vous avez pu voir?
Honnêtement, j'ai pas une méthode en particulier qui me, même si il y a des méthodes espagnol, notamment les jeux de position qui me tiennent à cœur. En méthode pédagogique, j'ai pas une méthode en particulier. Je suis, on va dire, différentes méthodes et je travaille avec différentes. Mais c'est vrai que le jeu espagnol et le jeu de position, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux pour faire progresser les joueurs et qu'ils acquièrent une, comme j'aime bien le dire, un QI foot et une intelligence football qui fait qu'ils peuvent ressentir le jeu en toute situation et qu'ils aient un peu une intelligence. Et voilà, pour moi, c'est surtout le plus important que les joueurs, au-delà du fait qu'on ait parlé de l'éducatif et du social, oui, qui puissent progresser au niveau technique et justement qu'on puisse, ces joueurs-là, dire du Burel ou qui sont passés sous mon coaching, de dire ce joueur-là, il sait jouer au football.
Intéressant, Chérif. Hein. Vraiment intéressant pour toutes les auditrices, les auditeurs de Beurre FM. On est avec Chérif, hein, du FC Burel, coach des U16. Alors, avant de le laisser filer à notre invité, Chérif, vas-y, Rafik.
Qu'est-ce que tu souhaiterais que tes joueurs disent de toi dans 10-15 ans, s'ils auraient un mot à décrire sur ce que tu as pu leur transmettre?
Sur ce que je leur transmets, j'aimerais qu'ils me disent qu'ils ont eu un déclic lors de l'année avec moi, qu'ils ont compris certaines choses et que du coup ils aient avancé, que ce soit au niveau technique, physique, mental et tactique. Même si j'aime bien le côté tactique, tous ces aspects-là peuvent rentrer en compte. Et moi vraiment, quand je prends une équipe, j'aime bien que les petits aient un déclic, quoi, qui passe une année où ils ont vraiment appris et qu'on voit la différence et que quand ils deviennent des hommes, et ça m'est arrivé maintenant, parce que ça fait maintenant 6 ans, de croiser des jeunes hommes, ouais, qui me disent j'ai énormément appris cette année-là et pour nous c'est le plus grand bonheur.
C'est vrai, c'est incroyable. Le bonheur pour nous ce soir, c'était Chérif, le coach de U16. C'est vrai, vraiment, vraiment. Merci. Eh oui, un grand merci de nous relayer un peu ces informations. Vous savez, là, c'est pas que les grands matchs de grands soirs d'Europe ou même de Mondial que l'on voit à la télé, mais c'est aussi vous et c'est grâce à vous. C'est vous qui donnez ces fameux, qui insufflez cette on va dire voilà, que ça soit l'impulsion, on va dire l'écoute, la capacité à engendrer, on va dire, et à évoluer dans le sein même des championnats amateurs, mais aussi pour devenir un homme, comme vous l'avez si bien dit, et aussi des champions tels qu'on le voit aujourd'hui sur les terrains de football dans les grands clubs européens et aussi des clubs venus d'ailleurs. Grand merci à vous, Chérif, pour toutes ces réactions sur l'antenne de Beurre FM. Vraiment. On va, sans plus tarder, on va revenir aux Marocains. Eh oui, à cette sélection des hommes de Walid Regragui. Eh oui, ce fameux sélectionneur marocain. Allez, c'est la dernière partie de cette émission.
Time Sport. La parole des sociaux.
Eh oui, Abdel. Eh oui, ça te fait sourire, Abdel. On parle de cette sélection marocaine, cette sélection africaine, parce que aussi c'était le débat du jour, hein. Je le rappelle, c'était vraiment le débat du jour où on demandait à vous, chers auditrices et auditeurs de Beurre FM, l'Afrique nous fait-elle honneur? Abdel, réponds à cette question, justement.
Bien évidemment que l'Afrique nous fait honneur. Déjà dans un premier temps, avant de parler des qualifiés, elles ont affiché un niveau de jeu plutôt satisfaisant, là où auparavant on pouvait ressortir des qualités plutôt autres que le football et le jeu proposé. En toute honnêteté, ça montre qu'il y a des gros progrès sur le continent africain. Souvent dans les coupes d'Afrique, on voit que c'est un peu au forceps, que c'est pas que ça joue pas. Là, au final, t'arrives au Qatar où t'as la possibilité de t'exprimer et t'arrives à mettre un jeu de qualité en place. Et au final, tu peux regarder pratiquement toutes les équipes dans les yeux. Ça a été le cas là, si on prend point par point avec le Sénégal, qu'on voyait dans un groupe assez large, assez homogène. Au final, ils sont allés la chercher pas au forceps, parce qu'ils ont clairement dominé le troisième match face à l'Équateur. Et il faut être sûr de ses forces, sûr de ses armes, dans le sens où le Sénégal reste une équipe qui vient de gagner la Coupe d'Afrique des Nations, qui s'est qualifiée aussi face à l'Égypte. Donc quand on arrive dans des matchs couperés comme ça, le Sénégal ne pouvait être
par exemple, ne pas être l'équipe outsider, devait être l'équipe favorite. Cet après-midi, on en parlait très très bien avec avec Rafik. Le Maroc monte clairement crescendo, joue sans complexe. On sait qu'il y a des méthodes qui ont été mises en place, notamment par Walid Regragui face à la Belgique, qui est justement d'aller asphyxier ces équipes pour pas qu'elles puissent relancer, qu'elles puissent toucher leur homme de base au milieu de terrain. Et c'est une stratégie qui a plutôt fonctionné sur les sur le sur sur les trois matchs de la poule. Donc c'est super intéressant. Voilà, malheureusement, on a eu la Tunisie pour faire un point d'ensemble qui ouais. Qui a pas su bien gérer le match contre l'Australie. Tu sors avec un but marqué, un but encaissé. Ça montre aussi qu'il y a eu des progrès. Et là, demain, on est en attente avec le Ghana qui, pour moi, produit pas le plus beau jeu, mais qui met le plus d'intensité, qui met le plus d'efficacité dans une revanche qui va arriver face à l'Uruguay. Et on verra le Cameroun merci. Demain face au Brésil qui peut espérer, même si ça va être dur, essayer d'enrôler peut-être un bon résultat. Donc pour répondre à la question, oui, le football africain a progressé, notamment sur la scène internationale, et ils peuvent regarder plusieurs équipes dans les yeux.
Ouais, on termine avec toi, Rafik, oui, avant la pause, la dernière de cette émission.
Les différentes sélections africaines ont répondu présentes au rendez-vous, de par l'état d'esprit. On a quand même des sélections qui répondent présentes dans l'état d'esprit. On a de l'engagement, on a du sérieux, on a du peps qui est amené par les différentes sélections. Qui résulte aussi au niveau le petit saut qualitatif, il résulte du fait que ben on a énormément de joueurs qui évoluent dans les meilleurs championnats et championnats européens et pas dans les petits clubs. Donc on a un gap qui s'est réduit de manière sensible entre les entre guillemets les nations moteurs que ce soit en Amérique du Sud et en Europe versus les nations africaines. Et ça, c'est de bon augure avec les prochaines éditions. On va avoir un plus grand nombre de représentants africains. Et à moyen terme, on va avoir, je pense, de manière régulière des sélections africaines qui vont s'installer dans les derniers tours de cette compétition.
On le rappelle pour les auditrices et les auditeurs de Beur FM, le Maroc est donc qualifié, tout comme le Sénégal, pour les huitièmes de finale de cette phase finale du Mondial au Qatar. Vous restez avec nous, on va revenir, c'est promis, avec justement, on va parler, c'est promis, de l'équipe de France, excusez-moi, et aussi du départ du sélectionneur des Diables Rouges, qui n'est autre que la sélection belge. À de suite.
Time Sport revient dans un instant.
10-19h30, 21h. Time Sport, spécial Coupe du Monde 2022 au Qatar avec Bilal Nenman sur Beur FM.
Et de retour sur l'antenne de Beur FM, une émission spéciale nation marocaine. Et oui, cette fameuse sélection de Walid Regragui qualifiée pour les huitièmes de finale de ce mondial au Qatar, le mondial 2022. Ils l'ont remporté aujourd'hui. Le match a eu lieu à 16h dans ce fameux groupe F, troisième journée, face aux Canadiens, 2-1. Et oui, Ziyech et aussi Nesseri. Joueur et aussi entraîneur marocain. On en a parlé depuis le début. Et cette prise d'antenne à 19h30, une émission spéciale Coupe du Monde, on le rappelle au Qatar. 19h30, 21h. 21h, c'est Vanessa qui arrivera. Mais nous, on va s'attarder sur le sort, justement, du sélectionneur belge.
Time Sport, le mode pressing.
Eh oui. Tu l'as pas oublié et tu l'as bien fait remarquer à toute l'équipe de Time Sport, Anthony. Hein. Et oui, il part, le sélectionneur Roberto Martinez.
Exactement, il quitte son poste de sélectionneur. Alors moi, je trouve que c'est quand même une bonne chose parce que je pense qu'il fallait faire un cycle au niveau des entraîneurs belges. Il a apporté ce qu'il a apporté. On l'a bien vu déjà en Ligue des Nations contre nous quand on l'a rencontré il y a un an et demi, quand on avait remporté cette Ligue. Après, je trouve que voilà, faut recycler et je pense que Henry est peut-être le futur candidat pour le remplacer.
On sait pas, on va voir avec Abdel et Rafik aussi pour m'accompagner.
Après Roberto Martinez, il a eu l'une des plus belles générations du foot belge. Il a pas su en tirer profit et tirer la quintessence de ce groupe. Du coup, ben il prend la décision qui est la plus juste. Il part de lui-même. Il arrive à la fin d'une génération et d'un cycle, donc on va voir avec la nouvelle génération qui arrive, comme tu le dis très justement Anto, hein, on a une solution endogène avec Thierry Henry qui peut reprendre le relais. On sait que c'est un joueur qui est un entraîneur qui est écouté par les jeunes générations, donc il peut apporter beaucoup à la Belgique. Et je pense que ça peut être une très belle opportunité pour lui de se racheter une crédibilité en termes de coach sur la scène footballistique.
Quelle page tourne, Abdel?
clairement de l'hypocrisie de la part de Roberto Martinez, parce que il démissionne. De toute façon, il allait se faire virer. Donc ça, c'est une question d'orgueil. Maintenant, c'est vrai que pour moi, il était un peu dépassé depuis quelques temps, comme ça a été dit par Anto et par Rafik. Il a eu la meilleure génération depuis un moment de l'histoire de la Belgique. Certes, il fait troisième au mondial, mais c'est pas ce qu'on attend d'un entraîneur qui a une génération en or comme celle des Belges. Et finalement, il n'aura jamais su redresser la barre. Il est resté sur ses fondamentaux et sur ses acquis. Et ce que je trouve vraiment dommage, c'est que dans cette sélection, quand on voit la liste des 26 pour cette Coupe du Monde, et ben finalement, il a jamais su mettre en avant et faire la transition avec ses anciens et ses nouveaux joueurs plein de talents. On rappelle que dans l'équipe, il y a quand même Trossard, il y a quand même Doku, il y a des mecs comme Decateler et des mecs comme Openda. Et au final, tu préfères donner ta confiance, ce qui peut paraître logique au début d'une compétition, à des joueurs comme Eden Hazard, à des mecs comme Batshuayi. Mais à un moment donné, c'est trois matchs, on n'a pas le temps d'être dans le détail, il faut être clinique. Et quand sur un match ça ne marche pas, à la limite de match, il faut savoir changer rapidement les choses. Lui n'a pas voulu le faire auparavant et n'a pas su et n'a pas eu le courage de le faire pendant cette Coupe du Monde. En plus de tous les conflits qu'il a pu avoir entre les joueurs en interne, alors que c'est une génération de joueurs qui était censée s'apprécier malgré un peu les déboires extrasportifs de certains. Mais voilà, c'est une équipe qui est très décevante dans le jeu qui devait être normalement une des têtes d'affiche. Je parle dans la globalité depuis que Roberto Martinez est à la tête de cette sélection. Au final, c'est une équipe qui n'a jamais su se réinventer, qui avait des joueurs plein de transitions, qui a toujours voulu garder le ballon alors que c'était pas vraiment le style de jeu que prônaient ces joueurs dans le 11. Et voilà, quid de la nouvelle de l'ancienne génération composée de Vertonghen, de Hazard, de Lukaku entre autres, parce que je pense que voilà, c'est peut-être la fin d'une ère, et la prochaine Coupe du Monde sera dans 4 ans et des joueurs auront pris 4 ans, donc ce sera assez compliqué. Et juste un dernier mot, moi je vois pas Thierry Henry reprendre cette sélection, en tout cas pas tout de suite. J'estime qu'il est pas encore prêt après les différents passages qu'il a eu dans sa carrière d'entraîneur. Donc on va voir qui ils vont mettre. Il faudra un mec de qualité pour justement tirer les pleins pouvoirs de cette nouvelle génération belge qui a quand même beaucoup de qualité.
Je suis pas d'accord avec.
Allez, n'est pas d'accord. Anthony, notre réalisateur,
sur Thierry Henry.
Non, c'est Rafik, excusez-moi.
Thierry Henry, on sait ce qu'il a donné en coach. Être entraîneur de club et être sélectionneur, c'est deux choses complètement différentes. Et il a le profil, à mon avis, adéquat pour endosser le costume de sélectionneur, où tu as moins de présence et de pression au jour le jour, où tu as un poids, on va dire, en termes de et une relation un peu plus particulière avec ton groupe. T'as moins de pression, tu peux capitaliser sur ton bagage en termes de joueurs aussi. Enfin, qu'on le veuille ou non, en termes d'analyse, il le prouve tous les week-ends au micro d'Amazon. En termes d'analyse technico-tactique,
il analyse bien les autres équipes, mais il analyse pas forcément
ses raisonnements.
Oui, mais il analyse pas forcément son équipe. Qu'il n'était pas encore en capacité pour moi d'avoir des
entraîneurs de club, être sélectionneur, c'est deux choses complètement différentes.
Mais pour moi, il a quand même eu un vécu avec la Belgique en tant qu'adjoint, qui fait que
il était spécifique des attaquants. C'est pas la même chose.
On le met quand même dans la casquette, comme tu l'as dit, d'être un mec qui a son statut, qui amène justement son passé de joueur. Sans être adjoint, c'est vulgarisé un poste pour moi. Et je pense que il a vécu en fait avec ce groupe là et pour moi, faut vraiment faire un remaniement. C'est dans ce sens là que je dis, c'est pas forcément qu'il a pas forcément les qualités. Donc c'est pour ça que je voulais m'exprimer par rapport à ça.
Moi je pense que
alors vas-y Anthony,
sa chance à Thierry, hein.
Ouais, le mondial Monaco, ouais, 2026 à venir, hein.
C'était compliqué à Monaco.
C'est compliqué, ouais, avec les Monégasques,
hein. Exactement, trop tôt, il avait du mal à gérer les joueurs.
Mais
je pense qu'il faut peut-être lui laisser sa chance pour la sélection belge. Ça coûte rien d'essayer. Après,
ouais, pour la prochaine Coupe du Monde.
Parce que je pense qu'on ne peut pas dire, ouais, Thierry Henry, ah bah non, vu ses résultats qu'il a fait à Monaco, tout ça, il a pris du grade. Comme tu as dit, Rafik, il est très bon en tant que consultant le week-end sur Amazon.
Ouais, consultant. Ouais.
Voilà, mais je trouve qu'il faut laisser sa chance. Des fois, on est un peu dur envers lui. Ça coûte rien. On voit ce qu'il va proposer avec des matchs amicaux.
On va laisser la chose venir, quoi.
Exactement. On voit ce qu'il propose. Si c'est bien, on continue. Et si c'est pas bien, bah c'est pas grave. Et c'est une expérience en plus.
C'est l'opportunité parfaite. Tu dois reconstruire. Tu dois repartir d'une feuille blanche. Pourquoi ne pas lui donner les clés?
Mais bien sûr. Là, je suis désolé. Alors,
Abdel. Allez, vas-y.
Thierry Henry, il est pas en stage.
Thierry Henry. Les gars, l'après Roberto Martinez.
Lui, laissez ça. Moi, ça me dérange pas. Mais pour moi, je l'ai dit, il a vécu avec ce groupe. Donc pour moi, ils ont besoin de nouveautés et de fraîcheur. C'est Thierry Henry, certes. Faut pas se faire avoir par le fait qu'il parle super bien, qu'il a une super carrière, etc. Pour moi, certes, il a pas une première expérience qui est facile. Mais pour moi, quand c'est un mec, quand on le voit parler, il a une telle exigence que pour moi, là, aller en sélection et demander sur une courte période ce qu'il veut transmettre à ses joueurs, pour moi, il en est pas capable parce qu'il a pas assez de recul justement par rapport à tout ce qu'on le voit parler dans les médias et dans ses analyses. Pour
mais
moi, en tout cas,
c'est antinomique à ce que tu viens de dire. Tu dis que t'as une jeunesse, t'as un vivier, t'as quelque chose sur lequel tu peux travailler. Et là, tu me dis sur une période courte, tu peux pas faire travailler les choses, faire progresser les joueurs et tout.
Oui, mais pas. Mais pour moi, il y a une jeunesse qui est présente, certes, mais lui, c'est pas la bonne personne elle est pas enclin pour moi à les faire travailler malgré le fait qu'il ait eu un bon passif. C'est pas, en fait, ça, pour moi, c'est pas un bon mariage, surtout quand tu as connu la sélection pendant un moment. Ils ont besoin pour moi de tout réécrire et d'avoir des gens en dehors,
c'est
en tout cas.
C'est un point de vue, ouais, c'est un point de vue. Ça s'entend, ça s'entend.
Bien sûr.
Mais le point de vue d'Abdel. On peut pas non plus dire,
il y a d'autres points de vue concernant Thierry Henry.
Un peu trop réducteur les mots que tu utilises quand pour décrire Thierry Henry.
C'est la mi-temps sur les deux matchs, hein. On rappelle, hein, le Japon-Espagne, 1-0 pour l'Espagne et Costa Rica-Allemagne, 1-0 pour les Allemands. Voilà.
Après, alors, moi, je pense pour finir avec la Belgique.
La Belgique. On a du temps. Allez, encore 4-5 minutes.
Quand Martinez n'était pas encore sur le banc, je crois qu'il était absent. Thierry l'avait remplacé, Monsieur Henry. Et il s'était quand même pas trop mal sorti au niveau
résultat.
Au niveau résultat, c'est pour ça. Après, et je crois que c'est depuis même avant 2018 qu'il est dans le staff belge. Je trouve qu'il s'en sort quand même pas trop mal. Il connaît les joueurs, il sait reconnaître les jeunes potentiels. Alors oui, c'est vrai que c'est un jeune entraîneur avec pas beaucoup d'expérience. Moi, je pense que c'est la chance de sa vie, quoi. On est une fois entraîneur d'une équipe nationale. Je pense. Pour lui, il faut lui laisser sa chance.
Et c'est comme dans le monde du travail. À la force, on te dit oui, t'as pas d'expérience, mais si on te donne jamais la chance d'évoluer, comment tu vas en engranger derrière?
Exactement.
Tu vois, à un moment donné, faut y aller.
On gardera un œil de près concernant l'ancien sélectionneur qui est Roberto Martinez et aussi, pourquoi pas, Thierry Henry, pas que sur nos confrères, chez nos confrères de Amazon Prime, non?
S'il veut venir ici, Thierry Henry, il est bienvenu, je pense.
Pourquoi pas. Oui. On va essayer de téléphoner. On a boula pour ça, t'inquiète pas. Blague à part. Abdel, la nouvelle répartition des places, pour le Mondial 2026 en zone Nord-Amérique, avec 16 places pour la zone Europe, pour la Confédération qui est l'UEFA, 9 places pour la zone Afrique, la CAF, 8 places pour la zone Asie et l'AFC, 6 places pour la zone Amérique du Nord, la CONCACAF, et aussi 6 places concernant le CONMEBOL avec l'Amérique, l'AM Sud, l'Amérique du Sud, et sans oublier, une place pour l'Océanie avec l'OFC. Allez, quelques réactions avec vous, messieurs.
Ben, me fait beaucoup rire cette information.
Elle fait rire, Abdel.
Parce que là où on voit que des continents sont dans la progression dans cette Coupe du Monde, on est incapable d'enlever des équipes en Europe. Bon, en Amérique du Sud, ils sont pas non plus fournis, mais en Europe, t'as peur d'enlever des équipes et des places. Donc forcément, tu fais quoi? Tu grossis la Coupe du Monde, elle va passer à 48 si je me trompe pas. Au final, si c'est pour avoir toutes les équipes du monde, autant ne pas faire de d'éliminatoire et faire directement au classement FIFA. Je pense que c'est un manque de personnalité de la part de la FIFA. Ils ont pas été capables d'être décisionnaires et d'être tranchants en voyant que certains continents avaient bénéficié de beaucoup plus de places et qu'ils étaient pas forcément légitimes par rapport à d'autres. Au final, voilà, comme j'ai dit, tu grossis la compétition parce que t'es pas capable de te mettre à dos certains pays et certaines confédérations. Donc voilà, on va avoir le côté positif parce qu'il y a des continents qui démontrent de belles choses et que qui eux, à la force du poignet, ont travaillé justement, ont mérité ces places-là, contrairement à d'autres qui sont clairement en régression et ne méritent pas du tout ces places. Donc voilà, je trouve un peu ça un peu rigolo et faire passer ça pour une révolution, une invention à d'autres.
Ouais, on t'écoute, Rafik, concernant ces places hein, au Mondial 2026
pour le continent africain qui va avoir plus de représentants, c'est plus que mérité. Enfin. J'ai envie de dire, mais voilà, donc ça permettra d'avoir des représentants du continent africain dans le dernier carré, on l'espère le plus souvent possible, pour que les retombées dans les championnats intérieurs interviennent surtout et que ça soit pas cantonné au niveau de la fédération. Il faut que
qu'on espère africain, vraiment. Voilà. Il faut Rafik, hein. Il faut. Bon, on a revu tous les matchs. C'est vrai qu'il y a encore des matchs ce soir qui se jouent dans ce groupe avec le Costa Rica, Allemagne, 1-0 concernant ce match-là. C'est les Allemands qui mènent et aussi sur le fameux Japon, Espagne, toujours 1-0 pour les Espagnols. On attendra donc qui rencontrera les Marocains. Qui rencontreront ces Marocains, et oui. Et
ben ça partira. Pour l'instant, c'est
les Allemands. C'est les Allemands.
86, et comme, et oui. Malheureusement, un but de
l'Allemagne, elle est qualifiée pour les 8e.
À l'époque.
C'est vrai qu'on part sur les Allemands, mais alors attention, parce que finalement, on sait que quand tu arrives en compétition à élimination directe, ça peut être une nouvelle compétition qui débute, mais quand on voit l'Allemagne, que ce soit ce soir ou lors des deux précédents matchs, on se dit que. Il y a des failles et que le Maroc, sur ce qu'il a démontré depuis le début de la compétition, a toutes ses chances pour tenter ce qu'on pourrait appeler un exploit. Donc voilà, comme on le disait, les équipes africaines ont progressé, sont beaucoup plus solides derrière, même si c'était le cas en avant, mais ils ont toutes les lacunes, tous les petits détails, le souci du détail, ça a été gommé par la plupart des sélectionneurs africains, et je trouve que ça fait la différence quand on voit les résultats de nos équipes africaines dans cette Coupe du Monde au Qatar.
Alors on termine peut-être un mot avec toi, Anthony.
Moi, je voulais ouais, juste aller rapide. Féliciter Stéphanie Frappa, qui est quand même la première femme arbitre.
Ouais, dans un mondial. Du monde,
exactement.
Donc masculin. Même,
le souligner. Exact. Très bien.
Merci beaucoup, super. Je cherchais les mots.
Bah, tu fais bien, Anthony, tu fais bien. Un grand merci, Alexis, sans oublier Rafik et le consultant qui est Abdel, de m'avoir suivi, de m'avoir accompagné aussi jusqu'à 21h. La suite des programmes, chères auditrices et auditeurs de Beurre FM, c'est avec Vanessa qui arrive tranquillement jusqu'à 23h, rien que pour vous. Nous, on se retrouve dès demain pour la dernière de la semaine, avant de retrouver dès dimanche Mohand et toute son équipe, 18h, 20h. Bye bye et soyez bien à l'écoute de Beurre FM, votre radio préférée.
Retrouvez Time Sport tous les jours de 20h à 21h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.